Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 25 mars 1998 à Saint-Jeudard.
C'est très net. Nous ne pouvons pas avoir une connaissance parfaite du mystère de l'Église tant que le terme de ce cheminement n'est pas réalisé. On est en devenir, le devenir le plus grand qui soit. Mais c'est un devenir en attente du retour de celui qui a fondé l'Église. C'est très important, ça, en théologie. Donc, comprenons que toute cette induction se fonde sur le fait Cela, vous le retrouvez au niveau éthique, au niveau philosophie de l'art, au niveau politique, au niveau de la philosophie de la nature, la philosophie du vivant. Et la question se pose en métaphysique dans l'ordre fondamental de ce qui est. Tout repose sur le chemin d'existence. C'est pour cela que je peux dire qu'il n'y a pas de philosophie du possible. Du fait même que le possible est en attente de l'exister. Et c'est capital de bien le comprendre, parce qu'autrement, vous faites une philosophie prophétique. Au niveau de la foi, c'est possible de faire une théologie pour celui qui est en chemin, pour celui qui vit de l'attente de la vision béatifique. Parce que la vision béatifique est promise aux croyants. Et à ce point de vue-là, on comprend comment la théologie peut facilement dévier en une théologie fossile. Entièrement faux si ce possible s'appuie sur une prophétie divine, donc s'appuie sur la foi. La foi nous fait vivre en devenir. Or, la théologie s'appuie sur la foi. Et je dis ça pour qu'on comprenne bien la différence entre la philosophie et la théologie. Et quand on laïcise la théologie, on voit toutes les erreurs actuelles en philosophie. Ça, c'est intéressant pour avoir l'intelligibilité de toutes les erreurs. Pourquoi on est arrivé à faire que le possible soit avant ce qui est. Pourquoi aujourd'hui les philosophes ont tellement de peine à comprendre le jugement d'existence, alors que c'est élémentaire pour Aristote. C'est le point de départ. Élémentaire dans ce sens-là, c'est capital, mais élémentaire. C'est fondamental. Alors, comprenons que dans toute cette induction, le jugement d'existence est en acte. Je constate deux états dans ma vie, le sommeil et l'état d'éveil, ou l'état d'éveil. Et le sommeil, c'est plus juste. Puisque j'ai conscience que j'ai dormi parce que je suis réveillé. C'est très curieux de voir que la philosophie moderne est la philosophie du somnambule. C'est très très curieux. Et la philosophie du somnambule parce que justement, je constate je suis endormi, coupé du réel. Qu'est-ce que c'est qu'être endormi, coupé du réel? Je suis suis dans un monde de rêve, un monde du possible. Alors tout peut venir, et c'est à partir du réveil. Or, le réveil, c'est lorsque mon intelligence peut dire « Ah, voilà, je suis éveillé, je m'éveille, je touche mon lit ». C'est génétique, mais en réalité, c'est retrouver le chemin d'existence. Je suis là, tu vois bien, je suis là. J'étais là hier. C'est moi qui suis là. C'est pas effrayant. Tu me connais bien. Le chemin d'existence. Quand vous faites poser le chemin d'existence, la réalité vous sourit. Dis-lui, c'est moi. C'est le réveil du jugement d'existence. Il ne le dit pas. C'est la limite de la philosophie d'Heidegger qui parle de l'oubli de l'être. Il devrait dire l'oubli du jugement d'existence par rapport à ce qui est. C'est toute la différence. Les seul, quand on construit, on peut corriger le plan de construction. C'est en fonction de la construction qu'on corrige le plan de construction. Et c'est là qu'on voit tout de suite si l'architecte qui a fait son plan a une grande expérience ou n'a pas d'expérience. Parce que ça ne s'invente pas. L'expérience montre tout l'abîme qui existe entre le plan et la construction. On dit, fais ceci, on se jette à l'eau. La différence de celui qui connaît tous les exercices parfaits de la nage et qui se jette et qui plonge. L'exercice. Alors, c'est ça qui est intéressant à bien préciser. C'est le jugement d'existence, l'exercice. C'est le jugement d'existence à l'intérieur même de mes opérations vitales. C'est, voyez, l'exercice du « je suis ». Quand vous avez la capacité de construire, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup médité. C'est la différence entre la méditation et l'oraison. La méditation, vous avez médité. C'est si beau, c'est si merveilleux, Dieu, c'est si grand, rien n'est plus grand. Et vous regardez tous les attributs de Dieu, c'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce que vous le touchez? Est-ce qu'il est là, présent? L'oraison, il est là. C'est l'acte. Mais il y a un abîme entre les deux. Vous passez du fini à l'infini. Parce que vous n'avez pas de méditation de l'infini, sauf dans le Zen. Vous voulez la voir et vous ne l'avez jamais. Tandis que on peut poser un jugement d'existence sur l'infini. L'être premier est nécessairement infini. Infini dans son être. On ne peut pas le limiter, parce que ce serait relatif à quelqu'un d'autre qui le mesurerait. Oui, alors, dans toute cette induction est présent le jugement d'existence. Et ça, il faut le mettre très en lumière. Exactement comme lorsqu'on regarde l'induction de la substance, on met en lumière la qualité propre de la substance première. C'est ceci est Pierre. Il est là. Dasein, il est là. Puis l'homme, Pierre n'est plus là. C'est la quiddité, c'est la nature de Pierre. C'est ce que je pense. Il est présent dans mon intelligence, dans mon appréhension. Mais ce n'est pas nécessairement là. Il y a quelque chose de très analogue dans l'induction. J'expérimente en moi la possibilité de construire. J'expérimente en moi la capacité que j'ai de réfléchir sur toutes mes pensées, toutes mes idées, toutes mes vertus. Mais l'homme vertueux n'est pas celui qui est capable de réaliser. réaliser des actes vertueux, mais c'est celui qui les réalise. Je vois ces deux états dans tous les degrés de l'exister. Et c'est là où je constate que ces expériences que je fais d'un état imparfait, imparfait par rapport à l'état parfait, parce que certains peuvent considérer que cet état imparfait dans ma pensée est supérieur idéalement à la réalisation. Mes idées, si je suis un bon architecte, mes idées que j'ai de la construction que je dois faire de cette salle, les idées que j'ai, comment la réalisation, c'est sûr, ça détermine, au point de vue de la détermination, c'est supérieur à la réalisation. C'est pour ça que l'artiste se corrige tout le temps et son idée se précise en réalisant la chose. L'idée est claire, limpide. C'est pour ça que Descartes pense aux idées claires. Il y a une perfection dans l'idéa. Il y a une perfection dans ce qui est pensé. C'est universel. C'est l'intouchable. L'universel n'est pas touché par la réalité. Il est dans ma pensée, il est à l'abri. Il est dans cette forteresse de l'esprit. Et la réalisation, l'effet qui se fait, qui se réalise, a une supériorité sur l'idée, c'est qu'elle existe. Dès le premier moment que le sculpteur a touché la pierre avec son ciseau et qu'il commence, il y a quelque chose de nouveau et de totalement nouveau qui est peut-être très imparfait, très embryonnaire, mais il est. Il faut bien comprendre cela pour voir toute la force de l'induction où je me pose l'interrogation en vue de quoi l'être. Alors l'être a des modalités multiples. On a vu les 10 prédicaments. Et je peux réfléchir sur toutes les modalités de ma vie, de mes opérations vitales. Il y a quelques grands moments où je peux expérimenter ces diverses modalités. Et je vois que toujours, tout est en vue d'un être dans un état de perfection. Et cet état de perfection m'échappe comparativement à l'état d'imperfection ou dans la modalité spéciale de l'intention. Autre chose est ma pensée, autre chose la réalité qui était à l'origine de cette pensée. Mais là, il faut beaucoup secouer, vous voyez, ces deux états et voir que toujours c'est ce qui est en acte qui apporte quelque chose d'irréductible à ce qui est ordonné à cela. et ma prophétie n'est jamais divine. Donc il y a un abîme entre ce que je promets et la réalisation. Je n'en suis pas le maître. Et je le sais. Et c'est pour ça que le sage, au bout d'un certain temps, dit toujours, si Dieu le permet, c'est dans les mains de Dieu. Mais celui qui écoute n'a pas la même sagesse. Alors dira, vous m'avez menti. Non, j'ai pas menti. Parce que la réalité, je ne peux pas et je ne la possède pas. La réalisation m'échappe. Et je le sais quand je promets quelque chose. Je promets quelque chose comme homme. Selon mon pouvoir, selon mes capacités. Et ça se voit magnifiquement dans les élections où les programmes politiques des partis et leur réalisation et elle leur dit, ah, ils ont menti. Non, ils ont eu, ils pouvaient être très bien vrais, ils ont eu une espérance humaine. Ils n'ont pas vu assez la difficulté dans laquelle ils se trouvaient. Les finances. Ils n'ont pas vu assez ça. Ils ont cru que... Vous voyez, cette distinction que nous faisons tout le temps, quoi, dans la vie pratique, il faut la penser au niveau de l'être. Il faut la découvrir au niveau de l'être. Parce qu'elle se fonde au niveau de l'être. Entre le possible. Alors, vous voyez, c'est là où il faut tout de suite noter que le possible prend des modalités très différentes. Il y a un possible logique. Il y a un possible artistique. Il y a un possible moral. Il y a un possible imaginatif. Impossible au niveau de la sagesse de Dieu. Voyez tous les possibles et tous ces possibles sont en vue d'une réalisation possible. Entre le possible et la réalisation, il y a ceux qui actuent le possible et que ceux qui actuent le possible peut-être la cause finale peut-être la cause efficiente. Alors là, vous voyez, on entre dans quelque chose d'extrêmement important. La cause efficiente, sauf quand elle est celle de l'être premier, est toujours cause efficiente en vue de l'acte, en vue de la réalisation. Et cette cause efficiente se réalise dans un certain devenir. Et le devenir, c'est l'anticipation de la fin dans ce qui est en puissance. L'anticipation du parfait dans ce qui est imparfait. C'est ça le devenir. C'est ça la croissance. C'est ça la promesse. La finalité potentialité comme désir. Parce que le désir, c'est ma potentialité à l'égard de l'amour. D'une manière instantanée. Mais ordinairement, ça se réalise selon un mode humain. Par le point de vue des passions, de l'imagination, qui est tout le temps dans le devenir. Une fois que nous avons bien compris que l'induction implique en acte et explicitement le point de vue du possible, de l'imparfait vers le parfait, tout ce qui est imparfait dépend du parfait, tout ce qui est parfait attire l'imparfait, le prend en charge et l'attire. Je peux réfléchir maintenant sur ce que Aristote appelle le poionti. Quels sont pour moi, toujours ceci en vue de mieux comprendre l'acte, ce qui est en acte, ce qui est en puissance, et mieux découvrir le principe de finalité dans les différents niveaux du poionti, de la qualité. Premier poionti fondamental et qui s'explicite dans chaque voie d'accès à cette induction. Le poionti premier, c'est ce qui est présent. Ça, faut caresser notre imaginaire. les usances. Ah si, c'est farouche. Alors, l'être en acte, c'est exister ce qui est. C'est ce qui est le premier poyanti. C'est l'essai. L'exister. L'exister que j'expérimente. Ah, quand je dis je l'expérimente, le poyanti, on l'expérimente. Le principe de l'être en acte, je ne l'expérimente pas. Je le saisis par mon intelligence. Vous voyez, le poyanti est au principe de finalité, à l'être en acte, au plan métaphysique, ce que le pos est à la substance. Il y a là un parallélisme très intéressant à faire et très éclairant. Ce poyanti, c'est comme le mode le plus intérieur de l'acte, de l'être en acte. L'être en acte pour moi, pour nous, homme, c'est ceci. Le premier mode. Ça, c'est très, très significatif et très intéressant à noter. Hence, il y aura toujours étant. Voyez, on fait passer le mode grammatical. C'est vrai, c'est le participe. Étant, c'est le participe de être. Marchant, celui qui marche. On fait passer le mode, le langage, le mode du langage, dans la signification métaphysique. Mon langage n'est pas métaphysique. Je n'ai pas une langue métaphysique. Parce que mon langage est au niveau de l'expérience et pas au niveau du jugement d'existence. Lorsque vous apprenez à parler, l'enfant dit papa, homme. première abstraction. Mais il met longtemps avant de savoir que c'est une abstraction. Et puis après, verbe, le verbe a des modes particuliers, il a le participe. Mais est-ce que le langage donne la signification de ce qui est? Non. La signification de mon langage ne relève pas du langage, mais de ma pensée. La signification est au niveau de la pensée. Et je me sers du langage pour transmettre ma pensée. Heidegger bloque les deux. Enfin, c'est ce qui lui reste de la fémologie. Il n'a pas dit jusqu'au bout de la critique. Alors, il dit, ens, c'est participle de ein, de esse. Esse, c'est l'infinitif. Donc, esse, c'est bien l'être en acte. Ens, c'est l'étant. Alors, c'est pour ça qu'il dit le to on et on, grec. Ce n'est pas encore la métaphysique. Parce que c'est pas l'être, c'est l'étant. Et l'étant, c'est un mode de l'être. Ce n'est pas l'être comme tel. Alors, tandis que id quod est, voyez que vous traduisez le participe par le présent. Mais en disant id quod est, cela qui est, c'est bien le mode. C'est le mode dans l'être. Mais c'est bien l'être. Et c'est l'être dans la première manière dont il se présente à moi. L'étant. Alors, quel est le premier poionti, le premier mode de l'être en acte? C'est l'essai. Le premier mode, ceci est. Ceci existe. Alors, faut-il faire une distinction entre l'être en acte et l'essai, l'exister? C'est Fabreau, un très bon thomiste italien. C'est Fabreau qui dit, faisons attention, ne confondons pas exister et être en acte. Et est-ce? Alors, au point de vue étymologie, c'est sûr que exister exprime autre chose que ceci est. Parce que exister fait sortir de, exister, sortir de, c'est l'origine. Si je sors du néant, mon ex est néant. Et donc, exister comme tel égale est en acte. Est-ce que Fabreau n'a pas mis en lumière l'exister d'un vivant qui naît? C'est sa naissance. C'est pas sa conception. Sa naissance. Il passe d'un milieu maternel dans lequel il a pris toute sa dimension d'un être distinct de sa mère. Exister. Oui, c'est très curieux que le langage est plus proche de l'aspect vital que de l'aspect métaphysique. Alors, c'est vrai que exister est le langage de l'expérience. Mais si je pense, si je me sers de exister au niveau métaphysique, je dis c'est l'acte d'être. L'acte d'être, le poyanti de l'exister, pour moi, est toujours relatif directement à Dieu qui seul crée un exister, un être qui est. Puisque si mon âme est créée par Dieu, elle est créée à partir du néant. Ma vie humaine n'est pas créée à partir du néant, à partir de la maternité, à partir de ma mère. Vous voyez, c'est important au point de vue du langage, parce que je ne fais pas la métaphysique à partir du langage. Le langage est un conditionnement pour le philosophe. Il faut bien me servir du langage. Je ne peux pas arriver à vous dire, j'ai médité très longuement ce matin sur l'être en acte. Alors, écoutez bien, ça ne peut pas se dire. C'est dans le silence de l'intelligence. Alors on a un cours silencieux du Zen. Et l'être en acte, l'essai, parfait, ça ne peut être que l'être premier, acte pur. C'est ce qu'Aristote a vu en disant que l'être premier est être pur. Et saint Thomas l'a traduit en latin, ipsum esse subsistans. C'est l'essai, l'être en acte, qui subsiste en lui-même. Ipsum esse subsistans, traduit acte pur d'Aristote. Et c'est vrai. Ça, c'est théologie naturelle. Ici, je ne suis pas encore en théologie naturelle, mais il y a une continuité. Il y a une continuité, jugement d'existence, qui reste lié au premier moment où je touche l'être en acte. Ceci est. Et quand je dis ceci est, id quod est, c'est ens ce qui est. Ce qui est. Ne traduisez pas étant. Parce que tout de suite on pensera à Heidegger. Mais traduit ce qui est. Et c'est bien l'essai. Et dans le langage courant, dites cela existe. Ce qui est existe. Est-ce que dans votre langage, quand vous pensez au plan métaphysique, est-ce que vous mettez une différence entre ceci est, ceci existe? Non. Ceci existe, c'est-à-dire ce qui est. Et quand vous dites existe, vous exprimez qu'il provient d'un autre. Mais mon exister au plan premier, je ne sais pas d'où il existe. Je chercherai et je dirai l'exister, mon exister ne peut provenir que de Dieu. Avec, quelquefois, parce que mon exister, c'est ma vie, avec le concours de causes secondes, non pas à l'égard de l'essai, de l'être en acte, mais à propos de ma manière de vivre cet essai. Je vis cet essai comme un homme ayant une âme et un corps. J'ai jamais vécu autrement mon essai. Donc je n'ai pas l'expérience de l'essai de l'ange. Je n'ai pas l'expérience de l'essai de Dieu. Mais j'ai l'expérience l'expérience de mon essai. Et mon intelligence peut saisir la ratio de l'être. Cet être en acte qui est. Aristote exprime ça d'une façon très belle quand il dit l'être, cette réalité qui existe, qui est pierre, qui est homme, il existe en homme, comme homme, à la manière d'un homme, il existe. Anthropo-Einein, l'être à l'homme. Donc vous voyez, il faut bien saisir ce que représente l'être en acte. Et il est mon être en acte. Et source de mon être en acte. J'existe comme un homme existe. Or, un homme existe par son âme. Et quand vous ne regardez plus l'âme, vous ne comprenez plus.